m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, Julien, avec courtoisie, mais...
Oui, avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois de vendredi soir 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, comme vous le savez, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour 2 heures avec ce soir mes 3 voiles subtiles et à droite pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. Jean-François Coulon-Désart est là, journaliste. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à tous.
Damien Chalamel, notre avocat préféré, spécialiste de la propriété intellectuelle, il est là aussi. Bonsoir.
Bonsoir, cher Marc, chers auditeurs.
Bonsoir, Damien. Bonsoir, Philippe Charlez, expert en énergie.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et au programme de ce soir, alors, pour une fois, vous ne pouvez pas appeler ni écrire, Si, Radio Courte, écrire, si. Alors on me dit que oui, on peut écrire des mails, mais par contre, les appels, c'est impossible. Et puis, on vous passera l'état des studios de Radio Courtoisie.
Qui sont en plein travaux.
Des courriers électroniques, voilà. Vous voulez dire.
Voilà, donc on essuie le plâtre, mais c'est très sympa, ça va être magnifique. Alors au programme, ce soir, édito pour la Chambre des représentants américaine, l'Union européenne pratique la censure à grande échelle. Je vous raconte ça tout à l'heure. L'école libre en danger. Nous avons un grand invité, Michel Valadier, directeur général de la Fondation pour l'école, est avec nous. En deuxième partie, nous parlerons de l'audiovisuel public qui est secoué, comme vous le savez, par Charles Alongle et qui persiste et signe malgré tout l'audiovisuel public. Et puis enfin, nous aurons notre clin d'œil culture, comme d'habitude, et je vous parlerai de Claire Géronimi, tiens, qui signe un livre particulièrement touchant qui s'appelle « Le hall d'entrée ». Pour eux, je n'avais pas le bon profil, c'est publié chez Fayard. Mais auparavant, notre traditionnel tour d'actualité. Qu'est-ce qui vous a frappé cette semaine? Qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité? Damien Chalamel, tiens, par exemple.
Je suis pas très inspiré, mais j'ai retenu que même dans ce modèle d'ordre et de prospérité qu'est la Chine... Eh bien, il semblerait que...
Je pensais que vous parliez de la France.
Voilà, vous avez compris. Non, non. Ouais. Eh bien, même là, les généraux finissent par ne pas être d'accord avec le grand chef. Donc, on voit une... Alors, c'est très difficile d'interpréter ce que nous en disent les grands médias, mais...
Oui, c'est ce général, vous parlez
de ce général.
C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le grand chef qui n'est pas d'accord avec ses généraux. Hein.
Voilà. Ouais. Mais bon... Vous pouvez inverser la proposition. J'en sais rien, ouais. Parce que moi, je serais modeste.
Pourquoi est-ce que ça vous a beaucoup surpris de la part de la grande démocratie chinoise ?
Ça démontre simplement que ce modèle d'autorité n'est peut-être pas si résistant ou si fort hein, qu'il veut le...
Il y paraît.
Oui, qu'il y paraît.
Enfin, Xi Jinping a quand même de la poigne.
L'avenir le dira.
Une nouvelle fois.
Mais effectivement, ce poupouch semble avoir fait...
C'est peut-être une constance communiste, finalement, parce qu'il est en train de décapiter son armée. Qu'est-ce qu'avait fait Staline juste avant la guerre en 1937? Il avait aussi décapité son armée, avec les résultats qu'on connaît. Donc, si ce monsieur veut prendre l'île de Formose, il va avoir du mal.
Alors tiens, pendant que vous avez la parole, Jean-François Coulon-Désart, qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité?
Une très bonne nouvelle.
Ah,
vraiment,
enfin,
pour moi, il y en a une.
Enfin.
Ah oui, la nomination de Madame Pigalle à la tête de France Inter, c'est à la place d'Adèle Van Rett, c'est formidable.
On s'attendait mais
c'est une très bonne nouvelle. Attendez, dès que Madame Pigalle, Pigalle. Et d'ailleurs, je ne sais pas si elle descend du sculpteur, il faudrait vérifier. Dès qu'elle est nommée quelque part, dès qu'elle passe quelque part, l'audience trépasse. Donc c'est formidable. Et RTL, Europe 1 doivent déjà se réjouir. Je veux dire, on doit faire des feux de camp.
C'est vrai, vous croyez qu'il débouche le champagne
c'est,
à ce
ah, bah, c'est, c'est formidable. Oui, oui, oui.
Elle était passée sûr. Où avant?
Oh, elle est passée partout. Elle est passée partout. 3 mois à LCI, à iTélévision, elle s'est opposée à M. Bolloré. Donc, évidemment, elle a pris la porte, etc. Elle est passée partout. Ça fait partie de ces, comment dire, de ces barons du journalisme. Dans le journalisme, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui font leur métier, qui font du journalisme, et les autres qui font une carrière. Elle fait une carrière. Voilà.
Alors, c'est vrai qu'elle était la patronne de iTélé. iTélé, c'est l'ancêtre de CNews. Et elle maintenait iTélé avec beaucoup de mérite, hein, sous la barre du 1% d'audience.
Absolument.
À 0,8, 0,9.
Et la façon dont elle a géré la crise des Gilets jaunes.
Elle avait une seule émission.
BFM.
Une seule émission qui marchait, c'était le débat entre Domenech et Zemmour.
Et elle a viré Zemmour.
Et elle a viré Zemmour, et Domenech aussi, du coup, par la même occasion. Et elle a supprimé cette émission qui était celle qui marchait le mieux.
Alors, avant de remplacer...
C'est assez extraordinaire, donc elle a vraiment des états de service assez impressionnants.
Elle s'occupait de France Bleu, vous savez, les radios locales de Radio France. Et son seul projet, ça a été de débaptiser France Bleu, ça s'appelle Ici. Oui, c'est totalement ridicule.
Ça existe toujours, France Bleu.
Non, c'est ici.
Ouais,
c'est ici, Auvergne. Ça a été rebaptisé. Ouais. Et je me souviens, il y a 2-3 ans de ça, peut-être, elle est passée, donc, évidemment, chez les confrères, notamment sur France Info, qui lui dit alors, quel est le bénéfice de ça? Parce que nous allons faire maintenant une radio de proximité, une radio de vérité. Une radio... Ah bon, on ne la faisait pas avant? Alors, la dame est un peu gênée, etc. Et puis, la journaliste lui a posé une bonne question. Ça coûte combien, tout ça? 4 millions d'euros. Tout ça pour passer de France Bleu à ici, 4 millions. C'est du bon usage de l'argent public.
Mais ça coûte,
bravo, madame.
Mais ça ne coûte rien, comme disait François Hollande, c'est l'État qui paye.
Oui, bien sûr, c'est ça, oui. C'est dans normal.
Voilà. Philippe Charlez.
Bah, moi, peut-être une nouvelle beaucoup plus triste, hein, c'est quand même cette enseignante qui s'est fait poignarder à Sanary-sur-Mer. On va sûrement en parler tout à l'heure.
Ouais.
Enfin, c'est quand même assez effrayant d'observer ce genre de choses. En plus, quelles étaient les motivations? C'est tout simplement parce que, semble-t-il, ce gamin avait été puni et se disait martyrisé par son enseignante. Alors bon, il y a peut-être derrière, effectivement, une famille déficiente, etc. Mais enfin, c'est surtout, moi, ce qui me marque surtout, c'est l'utilisation du couteau et de l'arme blanche qui devient absolument systématique. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'on pense beaucoup à elle et qu'on espère qu'elle va être rapidement tirée d'affaire.
Ouais, bon, on y reviendra tout à l'heure, hein, parce qu'on en reparlera avec notre invité, Michel Valadier. Alors, écoutez, moi, deux petites choses que j'ai retenues. D'abord, c'est cette affaire Jacques Lang. Je trouve ça extraordinaire, la dernière partie de carrière de Jacques Lang.
Mais arrêtez de l'embêter, il est au courant de rien.
Il n'est au courant de rien.
Ça suffit maintenant.
Il avait quand même des affaires dans les îles Vierges.
Mais Epstein est un garçon charmant.
Dans les îles Vierges, en plus.
Oui, je ne suis pas sûr.
Non, attention, c'est pas lui, c'est sa fille.
C'est sa fille.
C'est sa fille.
Oui, c'est sa fille. Mais enfin, bon...
Non, mais Jacques Lang, on en parlera après, non? Maintenant.
Non, on en parle tout de suite.
86 ans
et toujours stipendié par l'Institut du Monde Arabe, qui, voilà, c'est, apparemment, c'est un bon fromage, hein, il n'a pas envie de le quitter.
Ah bah, c'est sûr. Alors, il est convoqué, il faut savoir qu'il est convoqué ce week-end au ministère des Affaires étrangères. Jean-Noël Barrot se réveille un petit peu.
C'est
parce
ça.
Que là, bah, pourquoi pas aujourd'hui? Parce qu'il est au Maroc, là. Bah oui, il n'est pas en France. Donc, dès qu'il revient. Mais il sera. C'est compliqué.
Il doit être en France, puisqu'il était sur.
Non, il est au Maroc,
CNews,
là, d'après ce que. Bah oui, mais alors.
Pas sur CNews, sur BFM.
Oui, bien sûr. Ouais. Vous savez, l'avion, c'est pas mal, là, ça marche.
Ça marche, l'avion,
ça va assez vite.
Il est reparti.
Alors, mais il sera compliqué à virer, parce que s'il veut pas partir de lui-même, c'est une association, en fait, qui le nomme. C'est pas uniquement l'État français. Il y a l'ambassadeur du Qatar, l'ambassadeur, etc. C'est le conseil d'administration, voilà, je vais chercher le mot, de l'Institut du Monde Arabe, qui nomme le président. Et s'il n'y a pas la majorité, l'État ne pourra rien faire. Voilà, à suivre.
Absolument.
Enfin, voilà. S'il avait un peu de machin, il devrait démissionner, quoi, de lui-même, quoi.
Avec un peu d'honneur.
Rares sont ceux qui ont l'honneur de le faire.
Oui. Ah, quand même, il y en a.
De Gaulle.
Il y en a.
Oui, on y revient toujours.
Voilà, enfin, cette affaire n'est pas finie, mais elle va rebondir. On va voir si Jean-Noël Barrot, pour une fois, aura un petit peu d'autorité. Il n'en a pas beaucoup à l'international, mais là, peut-être vis-à-vis de Jacques Lang,
arrêtez de dire des mensonges.
Ah, ça y est.
Il a beaucoup d'autorité, regardez. Il arrive à le convoquer.
Vous êtes l'avocat de Jean-Noël
Barrot.
Vous êtes le seul, il n'y en a pas beaucoup.
Non, je ne suis pas avocat de Jean-Noël Barrot, j'aimais beaucoup son père, mais Jean-Noël, je ne le connais pas. Mais bon, c'est un Macron Boys, vraiment, dans dans toute son ampleur, dans ah bah toute ça, son voilà. Ouais. Donc je m'en méfie un peu.
Son père c'était Jacques Barrault.
Oui, c'était Jacques Barrault.
Absolument. Voilà. Et puis une deuxième chose, je voulais vous en parler parce qu'on en a beaucoup parlé avant et un petit peu pendant, puisque vous en avez un petit peu parlé la semaine dernière, cher Jean-François Coulon. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier d'avoir animé avec brio l'émission de la semaine dernière pendant que j'étais occupé.
Monseigneur est trop bon.
De Boulevard Voltaire, Française en danger. Ça a été un très grand succès. On a été très heureux de ce colloque. Il y avait 700 personnes qui étaient massées à la Grande Crypte dans le 16e arrondissement. On avait parmi ce public le cher maître Damien Chalamel, d'ailleurs.
Et j'y étais aussi.
Et absolument, et Philippe Charlez.
Avec mon épouse, d'ailleurs.
Voilà. Et avec quelques moments très forts, hein, notamment Alice Cordier, Némésis, lorsqu'elle a expliqué au général Schmitt, le père d'Anne-Lorraine Schmitt qui a été assassiné. Vous savez que ce drame lui a donné sa vocation de militante féministe. On a vu les saccages que peuvent produire les changements de sexe pratiqués aux États-Unis, notamment avec le témoignage de Chloé Cole, et puis des interventions très fortes, hein, je veux le dire, de Marion Maréchal, de Claire Géronimi, d'Edwige Diaz, de Sarah Knafo. C'était vraiment un moment assez exceptionnel et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de Boulevard Voltaire in extenso, et aussi par extrait, donc sur l'adresse YouTube ou sur le site de Boulevard Voltaire. Vous retrouverez cette manifestation qui s'est très bien passée. C'était assez compliqué à préparer, mais ça s'est bien passé et c'était très sympa. L'édito.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Pour la Chambre des représentants américains, l'Union européenne pratique la censure à grande échelle. La Commission européenne a fait pression sur les entreprises de réseaux sociaux pour qu'elles censurent les voix américaines. Pour l'auteur de ces mots qui ont été publiés sur X ce 3 février, l'Union européenne est bien un organe de censure. Ils sont signés Jim Jordan. Jim Jordan préside la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis depuis 3 ans. Il est l'ancien sénateur de l'Ohio. Il est certes un fidèle républicain, un fidèle de Donald Trump, mais il n'en occupe pas moins un poste à très haute responsabilité à la tête de l'un des deux organes du pouvoir législatif américain. Quelques jours après l'annonce d'une amende de 140 millions d'euros infligée à X par l'Union européenne et au lendemain d'une perquisition dans les locaux parisiens du même X, l'ancien Twitter, les mots de Jim Jordan accompagnent et résument un rapport de 160 pages consacré, je cite, à la menace de la censure étrangère, la campagne européenne depuis une décennie pour censurer Internet et ses conséquences sur la liberté d'expression américaine aux États-Unis. Fin de citation. C'est un rapport au vitriol. Les réseaux américains, Facebook, Twitter, etc., ont apparemment pas mal déballé sur le bâillon européen. Ils ont transmis des pièces, je cite, des milliers de documents internes des géants de la tech et des communications avec les autorités de régulation européennes, publiés aujourd'hui pour la première fois. Reste un tableau clair, nous dit ce rapport. L'Europe a mené avec succès pendant une décennie une campagne visant à contrôler le discours en ligne à l'échelle mondiale. Voilà ce qu'explique la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Donc cette commission américaine, elle décrit une forme de harcèlement. Lors de plus de 90 réunions organisées dans le cadre du Code de lutte contre la désinformation entre 2022 et 2024, la Commission européenne a fait pression sur les plateformes pour qu'elles censurent davantage de contenu. Ces règles, eh bien, elles ont abouti au DSA, au Digital Service Act. C'est un ensemble de règles imposées par l'Union européenne aux grandes plateformes. Et donc, depuis 2024, eh bien, TikTok censure désormais des informations véridiques dans le monde entier, voilà ce qu'écrivent les sénateurs américains, ainsi que des catégories vagues de contenus protégés par le premier amendement américain, comme les discours marginalisants. Alors ce rapport, il donne la preuve d'une ingérence européenne dans le processus électoral américain. Et il stigmatise une forme d'habitude, ce rapport. Il s'avère que l'ingérence dans les élections est une pratique courante pour la Commission européenne, explique la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Conclusion des Américains, la campagne de censure menée par la Commission depuis 10 ans ne montre aucun signe de ralentissement.
Ces éléments donnent leur sens aux propos anti-européens très critiques de J.D. Vance à Munich et de Donald Trump à Davos, voilà quelques semaines. Lors d'un point presse ce 4 février, la Commission européenne a répondu et elle a campé sur ses positions. Je cite, ils m'ont communiqué ça par mail, qui fait peser des risques sur nos élections, sur nos enfants, qui diffusent du contenu illibéral, les plateformes en ligne. On va continuer, dit la Commission européenne. En Europe, le Far West, c'est fini. Nous protégeons nos citoyens et nos démocraties. Veuillez que la guerre Union européenne-États-Unis sur le terrain de la liberté d'expression ne fait que commencer. Voilà, Damien Chalamel, avec votre œil de brillant avocat, comment est-ce que vous voyez cette offensive américaine anti-loi européenne ?
Écoutez, vous connaissez...
Qui déborde, l'Europe ou les États-Unis ?
Mon euroscepticisme, et vous connaissez mon admiration pour J.D. Vance en particulier, et tous ses excellents discours. Mais là, ce dont vous faites état, pour moi, c'est vraiment la grosse propagande yankee. Alors, pour vous, pour vos insomnies, je vous ai apporté les dispositions intéressantes du règlement sur les services numériques.
C'est gentil.
Du 19 octobre 2022. Et en particulier, ça fait quelques pages, puisqu'il y a, je vois qu'il y a les caméras, les obligations supplémentaires de gestion des risques systémiques imposées aux fournisseurs de très grandes plateformes. On est à Bruxelles, vous comprenez le style. De très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Et en réalité, alors...
Vous pensez que ces griefs sont infondés ?
Alors, en fait, je pense que c'est surtout extrêmement biaisé. Et que, bon, moi, je ne suis pas particulièrement libéral. Enfin, mais bon, la liberté, si vous voulez, du renard dans le poulailler. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner même trois exemples. Alors, au niveau européen, qu'est-ce qu'il y a comme enquêtes qui sont diligentées à l'heure actuelle, enquêtes récentes contre certaines grandes plateformes? Une grande plateforme, c'est une plateforme qui a plus de 45 millions d'utilisateurs. Alors, c'est typiquement X, c'est typiquement TikTok. 19 février 2004.
Facebook
également. Procédure engagée contre TikTok, et on n'est pas un géant américain, afin de s'assurer que le réseau social respecte le règlement sur la protection des mineurs, la transparence de la publicité, les risques liés à la conception addictive et au contenu dangereux. 27 mai 2025. Une enquête est ouverte par la Commission européenne contre 4 sites pornographiques, je ne vais pas citer leur nom pour leur faire de la publicité, pour ne pas avoir mis en place de moyens appropriés pour s'assurer que les personnes qui les visitent sont majeures.
Donc si vous voulez... Oui, mais ça, d'accord. Non,
mais, oui, mais ça, d'accord. Oui,
mais il n'y a pas que ça.
Non, alors, justement, non, mais c'est là que c'est biaisé. C'est-à-dire que ce règlement sur les services numériques, l'idée qui était celle de Thierry Breton, bah, vraiment, bon, c'est-à-dire ce qui est permis dans la vie réelle... doit être autorisé en ligne, mais et inversement, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes en ligne que vous devez que vous êtes dans l'impunité la plus totale. Alors là où, si vous voulez, là où c'est biaisé, c'est que bien évidemment derrière ça il y a la tentative de maîtriser ces contenus sociaux lorsqu'ils propagent une idéologie dite illibérale. Et effectivement, compte tenu de l'idéologie progressiste et diversitaire de la Commission européenne, je veux bien admettre que ce soit critiquable. Pour autant,
c'est évidemment une arme pour imposer cela.
Pour autant, mais là, ce que ça cache, et je vous ai cité des exemples, je pourrais vous citer d'autres exemples au niveau national. Au niveau national, il y a une enquête préliminaire qui est en cours, menée par le parquet de Paris contre X. Ben, il faudrait savoir, et en particulier pourquoi ? Parce qu'il y a du contenu pédopornographique sur X.
Oui, mais là-dessus, tout le monde est d'accord, mais ça va beaucoup plus loin.
Mais si vous voulez, avant de pousser des cris d'orfraie en disant, et avant d'embrayer sur ce que, pour moi, ce qui relève plus de la propagande nord-américaine qu'autre chose, parce que ces très grandes plateformes, ne nous trompons pas, elles sont essentiellement nord-américaines. Bon, et pour partie asiatique. Bon, si vous voulez, il faudrait quand même s'enquérir de savoir qu'est-ce qui est en jeu. En jeu, ce sont ces contenus illicites dont je viens de vous parler en très large partie. Donc moi, j'ai aucun scrupule à savoir que on se donne les moyens de maîtriser techniquement et juridiquement. Parce que derrière, il y a des amendes qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial.
Que c'est un argument.
consensuel et que derrière, il y a des censures qui vont beaucoup plus loin. Et Philippe Charlez. Hein.
Oui, moi, je suis assez en phase avec ce que dit Damien. Donc, je séparerai deux choses. Donc, la première, comme il le dit, c'est du licite et de l'illicite. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, il y a des choses qui sont interdites par la loi. Celles-là, il faut les condamner. Et puis, je séparerai aussi, effectivement, les majeurs des mineurs. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes majeur, ben, normalement, oui, la liberté s'applique parce que sinon, on va la restreindre à tout vent. Un adulte est normalement censé savoir ce qu'il doit regarder, ce qu'il ne doit pas regarder, et puis d'interpréter, de juger ce qu'il lit ou ce qu'il voit. Par contre, en ce qui concerne les mineurs, effectivement, le mineur est très influencé par ses réseaux sociaux et donc les lois restreignant fortement l'accès des réseaux sociaux aux mineurs, moi qui suis pourtant un grand libéral, là j'y suis contre. Pour la restriction des réseaux sociaux.
Jean-François Coulon, on désert très rapidement pour conclure.
Pour conclure, il faut que les Américains sachent que l'Europe n'est pas l'arrière-cour des Yankees, des Américains, et que ce qu'avait fait notre commissaire européen, c'est une très bonne chose. Il y a des règles, on les respecte. C'est pas les mêmes qu'aux États-Unis, c'est pas la même structure. Il y a des règles, on les respecte. Et c'est effectivement ce qui se passe dans la vie, on doit pouvoir les retrouver sur les réseaux sociaux. Et pas plus. Voilà, c'est tout.
Vous pensez que l'Union européenne est beaucoup plus morale que les États-Unis d'Amérique ?
Ah, sur beaucoup de plans, oui. Non, sur beaucoup de plans, bien sûr. Bon, on n'a pas la culture des armes qu'on a, on n'a pas la culture qu'ils ont, etc. Non, non.
Les États-Unis sont très hypocrites, en fait.
Voilà. C'est le mot que je cherchais.
Il y a beaucoup de puritanisme aux États-Unis.
Et je ne crois pas que ça soit fait pour cacher quelque chose ou essayer. Pour ça, il y a les sites de désinformation, il y a les officines de désinformation, ils savent faire ça très bien. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils savent faire ça très bien.
Voilà, allez, le débat donc est ouvert. On le réouvrira certainement dans l'avenir. Alors, nous parlerons tout à l'heure de Charles Alloncle et de l'audiovisuel public qui persiste et signe malgré la commission. Et puis nous aurons notre fameux clin d'œil culture que le monde entier nous envie. Mais avant, l'école libre en danger.
Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Ce 3 février, un collégien de 14 ans scolarisé en classe de 3e au collège La Guicharde à Sanary-sur-Mer dans le Var se jette sur son enseignante, une femme de près de 60 ans, et lui assène plusieurs coups de couteau, la blessant très grièvement. Le même jour, le 3 février, donc, Le Figaro consacrait justement sa une aux inspections soviétiques menées par le ministère de l'Éducation nationale contre l'enseignement privé, sous contrat et hors contrat. Quand la violence à l'école devient un fléau, l'État persécute les établissements privés. Michel Valadier, bonjour.
Bonsoir, bonsoir Marc, bonsoir messieurs et bonsoir aux auditeurs. Et
voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le directeur général de la Fondation pour l'école. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a peut-être quelques-uns. Vous avez fondé le groupe scolaire Saint-Dominique dans les Yvelines, et ce n'est pas rien, c'est la première école libre hors contrat par le nombre d'élèves. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, 840 élèves à peu près.
Vous êtes bien renseigné.
Voilà, et école catholique, c'est un métier. Vous avez dirigé cette école pendant 30 ans, en parallèle de vos activités de directeur associé d'un cabinet de conseil en management. Vous êtes aussi le père de 8 enfants, ce qui est une autre forme de management. Et vous êtes donc qualifié, plus qu'un autre, pour parler d'école et d'éducation. Alors, on aura tout à l'heure une femme chef d'établissement scolaire sous contrat. Elle témoignera de son expérience...
Hors contrat.
Hors contrat. Vous faites bien de corriger. Elle témoignera de son expérience des inspections de l'éducation nationale. Mais ça vaut le coup d'attendre. Mais je voulais qu'on commence par Sanary-sur-Mer avec vous. Hein, donc, ce 3 février, ce drame, hein, on l'a vu. Est-ce que vous vous dites, chez moi, dans les écoles que je connais, à Saint-Dominique par exemple, que vous connaissez bien, c'est impossible ?
Dire que c'est impossible serait présomptueux. Parce que d'abord, un accès de folie est possible dans n'importe quelle structure. Par contre, en pensant à ce drame, je me souviens de cette formule bien, bien léchée de Gustave Thibon, qui était le spécialiste des aphorismes, et qui disait « Une société qui se porte bien est une société qui a un maximum de mœurs et un minimum de lois. » Et le drame de la société française et que l'ensauvagement que nous constatons tous et dans toutes sortes de d'endroits et même de sanctuaires, hein, puisqu'on poignarde dans les écoles, on poignarde dans les églises aussi, dans les lieux de culte, montre que l'empilement des lois, la mise en place de portiques à l'entrée des écoles, etc., 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 n'empêche strictement rien. Pour vous répondre par rapport à Saint-Denis, je vous répondrai d'une autre façon. Dans l'école que j'ai l'honneur de diriger et de fonder avec quelques amis il y a 33 ans maintenant, les fournitures, par exemple, sont dans une armoire, sont rangées dans une armoire, dans un couloir, et sont accessibles à tous les élèves. Les livres sont la bibliothèque
et dans les cache
il n'y a pas de vol. Les élèves déposent le matin leur casse-croûte pour la journée dans un casier qui est ouvert dans la cour. Alors je ne dis pas que de temps en temps il n'y a pas des échanges ou des élèves qui déplacent parce que ce sont quand même des enfants qui sont normaux, donc ils font des blagues, etc. Et les rares fois où il y a eu des vols de casse-croûte, de pique-nique, en l'espace de 48 heures, l'auteur du larcin est retrouvé. Donc il n'y a pas ce genre de choses. Donc un accès de folie, oui, c'est toujours possible. Mais chez nous, les bureaux sont ouverts. Les élèves savent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et ils apprennent à respecter le matériel, ils apprennent à respecter les affaires qui sont mises au service de tous. Et je me souviens un jour d'avoir une visite de la personne qui s'occupait des affaires scolaires à la mairie, qui a fait un stage d'une semaine dans notre école pour monter en grade, pour prendre un coefficient dans la fonction publique. Et elle dit, mais c'est incroyable de laisser tes affaires à la portée de tout le monde. Et il n'y a pas de vol, il n'y a pas de déprédation, il n'y a pas de... Donc voilà, je pense que...
Alors justement, Michel m'a dit, là, je voulais revenir sur le profil de cet enfant. Hein. On dit que c'est un gars gentil. Hein. Ils sont toujours très gentils, les assassins. Hein. Ils disaient bonjour, etc. Un gars très gentil. Alors là, en l'occurrence, il n'a pas assassiné, il a blessé. Mais bon, un peu pénible en pleine classe, qui se pense victime d'injustice et qui a trop de haine, entre guillemets, trop de haine. Hein, sa professeure a établi des rapports disciplinaires.
C'est déjà pas gentil d'avoir trop de haine.
C'est vrai. Hein, en tout cas, il avait eu des rapports disciplinaires. Il y avait eu des rapports disciplinaires sur cet élève. Il avait inscrit des incidents sur l'application Pronote, ça avait créé des tensions. Tout ça, c'est assez banal. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces adolescents qui plantent des coups de couteau à la moindre contrariété? Vous allez me dire, revenir sur ce que vous venez de nous expliquer, c'est-à-dire de dire y a un manque de civilisation, peut-être, non?
Oui, il y a ça. Alors, par rapport à les détails que vous donnez, parce que je dois confesser ne pas avoir lu les articles sur ce drame, lorsqu'un élève est signalé sur le plan de son comportement. Dans beaucoup d'écoles, ça existe, et nous l'avons mis en place à Saint-Dominique. Chez nous, les professeurs principaux ont une dotation horaire qui est trois fois plus importante que dans l'école publique ou dans les écoles privées sous contrat.
Une dotation horaire,
c'est-à-dire qu'ils ont une heure et demie, ils sont payés une heure et demie par semaine au lieu d'une demi-heure, pour, en troisième en particulier, pour pouvoir avoir sur leur temps de travail des contacts personnels avec chaque élève de leur classe.
Et donc, une heure et demie par semaine,
ils ont un temps et le directeur doit vérifier qu'effectivement le professeur en profite pour voir les élèves régulièrement et de manière à ce que les collègues se tournent vers le professeur principal en disant il y a eu tel problème, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Et vous savez, la botte secrète d'un bon éducateur, la botte secrète d'un bon chef, c'est le contact personnel. Vous avez un problème avec un collaborateur, ça ne sert à rien de l'assassiner en public, vous le voyez à part, vous avez une bonne explication de gravure dans votre bureau, et puis ça se passe en général, dans 95% des cas, vous résolvez le problème. Dans une classe, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Dans notre école, nous avons mis en place également, à partir de la troisième, parce qu'en dessous, ils sont un peu trop jeunes, non pas des délégués de classe, mais des animateurs de classe. Donc ce sont des élèves qui ne sont pas forcément les meilleurs de la classe, ce sont des élèves qui sont capables qui ont un très bon esprit, qui ont le sens du bien commun et qui sont là pour veiller justement au manquement à la charité.
Ils ne sont pas élus, du coup.
Ils ne sont pas élus.
Alors, ils sont élus
à la mode traditionnelle dans l'Église, c'est-à-dire que les élèves qui veulent être animateurs se déclarent volontaires à la rentrée, au bout d'une semaine, 15 jours, quand ils se connaissent. Et c'est le professeur principal, les chefs d'établissement, qui décident qui sera animateur sur la base des volontaires.
Ouais.
Et comme la nomination des évêques se fait comme ça, normalement, on présente une terna, trois noms à Rome, et Rome décide. Et quand Rome n'est pas satisfait des trois noms, elle demande une autre terna. Ça m'est arrivé en tant que directeur de dire, écoutez, les garçons, là, il n'y a pas assez de volontaires, il y a des gens que je voudrais voir volontaires, ils sont pas... Et donc, on refait passer la liste. Ouais. Et le fait d'avoir ces relais dans la classe permet de détecter ces signaux faibles. Un garçon qui en récréation
dans tous les lycées, vous avez des délégués de classe.
Oui, mais le délégué de classe, il est là pour représenter la classe. Il est là pour représenter la classe auprès... C'est le principe du syndicalisme, c'est le principe du il est là pour représenter la classe auprès des autorités. Donc il revendique qu'il fait trop froid, il fait trop chaud, il y a trop de travail, et que sais-je. Là, pas du tout. L'animateur a pour fonction de veiller à l'esprit dans la classe et de s'occuper des élèves qui ont quelques difficultés et qui n'osent pas forcément remonter. Oui. Donc ce ne sont pas des délateurs qui disent un tel a dit ceci, un tel a dit cela. Ce sont des personnes, la délation est interdite dans notre établissement. Et nous appuyons sur des textes très sérieux pour cela. Par contre, combien de fois avons-nous arrêté, empêché des injustices, des drames, des difficultés parce que l'animateur allait voir le professeur principal en disant je pense que vous devriez, tel problème se pose, il faudrait peut-être s'en occuper.
Damien Chalamel qui va vous titiller un peu.
Non, pas du tout. Non, mais je suis frappé cet exemple des animateurs. La question que je voudrais vous poser, même si je crois connaître la réponse, c'est on est bien d'accord que si vous octroyez cette liberté parce que vous êtes dans le hors contrat, mais que si vous étiez sous contrat avec l'État, vous n'auriez pas cette liberté. Vous seriez dans le système des délégués de classe qu'on connaît, avec ces espèces de caricatures de principes démocratiques, ce qui est grotesque, sachant que derrière, il y a une relation adulte, enfant, élève, enseignant qui se joue. Bon, bref.
Je pense qu'un chef d'établissement dans le public pourrait, tout en gardant l'intitulé délégué de classe, même si ça n'a pas la même portée, transformer le contenu, voir expliquer aux élèves que la forme de désignation passe par je prends les noms des volontaires et je désigne les volontaires, je suis sûr que ça peut passer. Un chef d'établissement qui a la poigne pour dire aux inspecteurs, aux autorités au-dessus, vous m'emmerdez, je suis le patron, je suis chef d'établissement, je pense qu'il y a des marges de liberté qui effectivement ne sont pas prévues dans le mode de fonctionnement de désignation des délégués de classe, parce que les délégués de classe dans le système assistent au conseil de classe. Donc si vous voulez, il y a je pense que ce serait possible. Il faudrait peut-être modifier quelques textes si demain nous avons un ministère.
Il me semble que vous seriez hors du cadre réglementaire. Bon, par ailleurs, je ne pense pas qu'il y aurait des chefs d'établissement, que ce soit dans le privé sous contrat ou a fortiori dans le public, capables de...
Alors dans le privé sous contrat, ça existe.
Ça existe, oui. Alors, d'accord.
Je sais que nous avons été copiés par certains camarades, donc ça existe.
Alors, je rappelle que nous recevons Michel Valadier, que vous êtes le directeur général de la Fondation pour l'école. Jean-François Coulon-Desart.
Oui, Michel Valadier, pour nos auditeurs, il faudrait peut-être une petite précision. Quels sont les avantages et les inconvénients d'être hors contrat?
Alors, les écoles hors contrat sont des écoles qui sont privées de subventions.
D'accord. C'est l'avantage.
Ça, c'est le gros inconvénient.
D'accord.
C'est le gros inconvénient. L'énorme avantage des écoles hors contrat, même si les textes récents tentent à en limiter la portée et à le réduire comme peau de chagrin, est que le directeur, l'association de gestion de l'établissement et le directeur sont les employeurs des professeurs.
D'accord.
Cette disposition, d'ailleurs, existe toujours, même lorsque vous passez sous contrat simple, puisqu'il y a deux types de contrats prévus dans la loi Debré.
Donc vous pouvez choisir vos professeurs.
Vous pouvez choisir vos professeurs.
On ne vous les impose pas.
On ne les impose pas et vous pouvez vous en séparer si ça ne convient pas. Et puis surtout, vous êtes leur responsable hiérarchique. Ce qui n'est pas le cas dans les écoles privées sous contrat d'association et dans les écoles publiques, où le supérieur hiérarchique du professeur est l'inspecteur qui vient visiter ses collaborateurs, entre guillemets, en moyenne une fois tous les 8 ans.
Oui, là c'est un chef d'entreprise.
Donc en termes de management, vous dire que c'est un peu limité. Et donc ça, c'est le premier avantage, c'est celui-ci. Le deuxième avantage énorme, c'est que les établissements scolaires ont la liberté sur les programmes.
Ah bon ?
Oui.
Oui, mais vous amenez, vous amenez vos élèves au bac, de toute façon. Donc, il y a, oui. Y a des figures imposées, on va dire.
Il y a des figures imposées. Nous sommes depuis 2005, sous le ministère de M. François Fillon, obligés de suivre ce qui s'appelle le socle commun des connaissances et des compétences. Oh, et ce socle commun, au départ, était assez large et s'est évidemment alourdi pour occuper les quelques 150 fonctionnaires qui s'occupent de ce socle. Et ce socle commun, aujourd'hui, pose un problème parce qu'il développe deux dimensions. Une dimension sur les connaissances. Celui-ci n'offre pas vraiment de difficultés. Une autre dimension, c'est ce qu'ils appellent les compétences. Et dans ces compétences, vous avez un certain nombre de sujets qui sont très vagues.
On met tout et n'importe quoi.
L'éducation à la citoyenneté, l'accueil de l'autre, le respect des valeurs de la République qui ne sont pas définies, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, le problème des inspections est qu'en s'appuyant sur le socle commun, les inspecteurs qui ont tous été formés dans l'enseignement public essayent de plaquer ce qui est obligatoire dans l'enseignement public aux écoles privées, qu'elles soient sous contrat ou hors contrat d'ailleurs. Mmh. Et donc, par contre, il y a une autonomie totale sur les programmes, sur les manuels.
Mmh. Pourcentage résultat au bac,
Jean-François Coulon.
Les résultats au bac des écoles hors contrat, et la moyenne nationale est à 95%. Donc je vais vous dire, on fait.
Avec mention.
Et c'est surtout là où nous faisons la différence. Une école comme Saint-Do, nous avons 100% au bac, non pas en sélectionnant les élèves et en écartant ceux qui ne sont pas capables d'avoir le bac, mais par contre, nous avons 70% de mention. Bien et très bien.
Alors justement, vous savez ce qu'on va vous dire, et je donne la parole à Philippe Charles après. Mais vous savez ce qu'on va vous dire, c'est que vous avez votre clientèle, ce sont des élèves catholiques, dans des familles stables, de cadres supérieurs, bien léchés, etc. Alors que l'adolescent dont on parle, par exemple, il a été suivi depuis septembre dernier par un juge des enfants en assistance éducative. Il participait ponctuellement à des rencontres organisées en famille. Enfin bref, le SNALC, qui est un syndicat de gauche, dit on doit travailler sur la santé mentale des jeunes. Autrement dit, il était suivi, etc.
Donc, on doit travailler sur les parents, pas sur la santé mentale des jeunes.
Si je résume, est-ce que vous n'avez pas finalement des exceptions d'élite ? Est-ce que vos enfants ne sont pas complètement atypiques par rapport à ce que les autres professeurs et les autres écoles doivent gérer ?
Alors, je peux vous dire
que... Je suis un peu le gauchiste de l'émission.
Oui, mais c'est journaliste. Ça fait du bien,
n'est-ce pas ? C'est un rôle de composition, mais c'est sympa, finalement.
C'est fait pour l'année.
Il est certain que je ne vous mentirai pas en vous disant que les écoles en contrat ne bénéficiant pas de subventions ont des scolarités qui sont malheureusement élevées. La moyenne en primaire, par exemple, une scolarité est en moyenne autour de 2000 euros. Par contre, il existe des systèmes de fonds de solidarité et je peux témoigner également que dans toutes ces écoles, vous avez des personnes qui sont très pauvres. J'ai inscrit un élève qui était d'une famille de trois enfants. La mère élevait seule ses enfants. Et je lui ai dit, madame, ici tout le monde paye. Par contre, combien pouvez-vous donner ? Et donc la scolarité pour cet enfant était de 10 euros. Et je dis, madame, il est très important que vous puissiez régler votre scolarité parce que quand vous allez sortir sur le trottoir, vous allez devoir avoir la tête haute. Vous n'êtes pas. Et donc c'est le bol de la veuve, si vous voulez. Les exceptions que nous avons toujours évidemment respectées dans notre école, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres établissements, lorsque nous récupérons des réfugiés, nous avons récupéré au moment de l'offensive de Daesh en Irak, des familles irakiennes, des réfugiés irakiens, qui évidemment n'avaient pas un sou, on leur a tout donné, on leur a donné le pull d'uniforme, on leur a donné les fournitures, les affaires, etc. etc. Et dès lors que ce ménage irakien qui avait trois enfants a eu le droit de travailler, puisqu'il y a la situation des réfugiés est compliquée, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler tant qu'ils n'ont pas leur fameuse carte et leur reconnaissance. J'ai vu les parents tous les ans, et bon, au début ils m'ont dit pas de changement de statut, et puis après ils ont dit ça y est j'ai une carte, donc je commence à travailler. Je dis maintenant on va déterminer le montant de la scolarité. Là c'est pareil, on leur a demandé 10 euros par mois.
Ouais, c'est la vieille tradition des écoles catholiques d'ailleurs. Philippe Charlaise.
Ouais. Parce que quand vous parliez des 2000 euros, c'est par an.
Oui,
on est bien d'accord.
Mais les élèves qui vont chez vous, ils n'ont pas le droit aux bourses classiques, traditionnelles ?
Non.
D'accord.
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est quand vous avez un enfant à problème, vous résolvez le problème ou au contraire, vous l'excluez de la... Parce qu'évidemment, dans ce cas-là, on va dire que ça limite les problèmes.
Il est clair que...
Je vais aussi jouer un petit peu au gauchisme, oui, mais ça ne fait rien.
Il y a une difficulté dans le système actuel, c'est qu'il existe des établis... la loi prévoit des établissements pour ce qu'on appelle les polyexclus. Or, ces établissements-là, j'ai oublié l'acronyme, il y en a 17 en France. Donc, ce qui est notablement insuffisant. Donc, que se passe-t-il dans une école publique? Un élève pose des problèmes. Conseil de discipline, une fois, deux fois, trois fois. Si le chef d'établissement veut l'exclure, il doit trouver un établissement d'accueil. Et le chef d'établissement de l'école d'à côté lui dit « Ok, je te prends ton gars, mais tu m'en prends un. »
On se repasse la patate
chaude. Et donc, finalement, c'est assez compliqué. Donc, une des dispositions politiques qu'il faudrait prendre et que nous appelons de nos voeux pour l'école publique, hein, c'est surtout pour l'école publique, et je vous réponds ensuite dans notre cas, c'est de multiplier par 10, par 20, le nombre d'établissements de polyexclus, où là, on est dans un autre monde. On fait peut-être un peu d'école, mais on fait surtout du redressement. On essaie de sauver ce qu'il est possible chez ces jeunes en leur apprenant tout simplement à être des êtres humains, de faire usage de leur intelligence et de leur volonté. Et donc, on est dans un autre mode.
Ça risque pas d'être un peu le syndrome de la prison? Donc, c'est-à-dire qu'un délinquant qui rentre en prison en sort encore plus délinquant.
Il existe des éducateurs...
Bah, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit vrai.
Il existe des éducateurs hors pair. Je pense à certaines personnes qui ont parfois fait une carrière militaire, qui arrivent à redresser des gars.
C'est vrai.
Mais vous voyez ça dans certains régiments d'élite, les régiments parachutistes, etc.
Oui, l'armée,
il faut s'inspirer. L'amiral Braque de la Parrière, etc., qui avait mis au point ce genre de choses. Dans nos établissements, il est vrai qu'il nous arrive d'exclure des enfants, des élèves. Récemment, il y a deux ou trois ans, un élève a commencé à faire un départ de feu. Bon, et il avait été déjà repris. Eh bien, nous avons dit à la mère qu'il élevait seul ce garçon. C'est pas possible, là, parce qu'il mettait le feu. Donc, nous avons accompagné cette mère pour lui trouver un établissement. Il m'est arrivé d'accueillir un jeune homme au lycée, en classe de première, qui avait été renvoyé de son établissement parce qu'il consommait de la drogue. Donc, le chef d'établissement m'a dit « Je suis obligé de le renvoyer. » Il venait du privé sous contrat. Je suis obligé de le renvoyer. Donc j'ai pris ce garçon, j'ai fait venir les animateurs dans mon bureau, j'ai dit « Les garçons, je vous préviens tous les trois, voilà ce garçon, vous en occupez. Il ne faut pas qu'il retombe, parce que s'il retombe, malheureusement, on ne va pas pouvoir le garder.
» Les animateurs qui sont vos délégués de classe,
ils sont en forme de délégués de classe. Animateurs, vous êtes les seuls au courant. Enfants. Les professeurs sont au courant, vous êtes au courant. Les autres ne doivent pas le savoir. Et ce garçon, eh bien, a progressé. Malheureusement, c'est son père qui lui donnait de la drogue. Et un matin, il arrive un lundi, je suis allé voir mon père et j'ai fumé. Je lui ai dit, écoutez, vous avez avoué, je vais vous convoquer pour un conseil de discipline parce que je ne peux pas faire autrement, mais je tiendrai compte de ce que vous m'avez dit. Et ce garçon était tellement révolté qu'en rentrant chez lui, il a donné un coup de poing dans un arbre. Il s'est blessé. Et sa main s'est infectée. Et il a fini l'année scolaire à l'hôpital. Il n'a pas pu revenir. Mais ce garçon, je le gardais. Je le gardais. Bon, après, il avait un problème de niveau, il ne savait rien, enfin, c'était très compliqué. Ouais. Donc après, on a proposé pour qu'il aille en pension, pour qu'il soit coupé de... C'est son propre père qui lui donnait de la drogue. Ouais.
Alors, oui, Jean-François,
non, une question très vite. Oui, très vite, non, pas
parce
très
qu'il
vite.
Faut qu'on tourne la page.
Oui, mais non, sur ce que vous disiez là, je rebondis, il n'avait pas le niveau. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis finalement les années 80, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, qui souhaitait emmener 80% d'une classe d'âge au bac, en tout cas c'était dans les 110 propositions, que le niveau s'est cassé la gueule?
Ça date d'avant. Le niveau a commencé à se casser la figure avec la mise en place des réformes Habi en 75, avec la mise en place du collège unique. Où de fait, on a considéré que tous les enfants devaient avoir le bac. Résultat, ils ont tous le droit d'aller à l'université. Résultat, 80% des élèves échouent en fin de première année. Résultat, nous avons le pourcentage d'étudiants ayant un master qui est de 25%, alors qu'en Allemagne, il n'est que de 15%. Résultat, le premier employeur des masters en France aujourd'hui, c'est la grande distribution.
C'est ça, c'est des 4 ans, oui.
Allez, nous sommes avec Michel Valadier, qui est le directeur général de la Fondation pour l'école. On va parler du coup de gueule du patron des établissements privés, catholiques privés.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Damien Chalamel, Jean-François Coulon-Desart et Philippe Charlaise. Ce n'est pas la priorité de l'État, taper sur l'enseignement privé. La terrible affaire Betaram a déclenché une offensive inédite de l'État contre l'enseignement
privée, c'est la priorité de l'État, pardon, je ne sais pas ce que je raconte, c'est la priorité de l'État, c'est de taper sur l'enseignement privé, semble-t-il. Hein. La terrible affaire Betarame a déclenché une offensive inédite de l'État contre l'enseignement privé. Elisabeth Borne, alors ministre de l'Éducation nationale, avait promis qu'elle diligenterait 1000 contrôles dans les écoles privées avant la fin de l'année. Elle a tenu parole, ou presque, l'actuel ministre, Édouard Geffray, a indiqué fin octobre que plus de 850 contrôles avaient déjà été menés et que l'objectif serait effectivement atteint. Contrôle donc moins de 10 en 2023, moins de 10 contrôles. On est passé donc à 1000 en 2025. Mais évidemment, certains le justifient, et c'est le cas de Serge Faubert. C'est un journaliste, il était interviewé ce 29 janvier sur la chaîne France Info. Écoutez ce qu'il dit.
Il faut s'attarder un moment sur le contrôle des institutions scolaires, parce que dans un précédent rapport, Paul Vanier, un des deux rapporteurs de la commission d'enquête sur Betarame, avait noté quand même que l'enseignement privé, essentiellement catholique, n'était jamais contrôlé.
On se souvient qu'à Betarame, il n'y avait pas eu de contrôle depuis 30 ans.
Un contrôle tous les 1500 ans, hein, statistiquement. Il y a 5 contrôles par an pour 7500 établissements. Vous faites la division, ça donne un contrôle tous les 1500 ans. Et quand même, je rappelle qu'il y a de l'argent public, hein, qui part vers l'enseignement privé autour de 8 milliards. Bon, donc on peut quand même légitimement, d'une part, s'intéresser à ce que devient cet argent, et puis deuxièmement, contrôler ce qui se déroule dans ces établissements. Dans la proposition de loi, il y a quelque chose qui me semble être de bon sens, mais on se dit, pourquoi ça n'a pas existé avant ? La proposition de loi qui est faite dit il faut contrôler l'honorabilité des personnels qui vont enseigner dans ces établissements.
Regardez leur passé judiciaire.
Ça veut dire que ça n'était pas fait jusqu'à présent. On pouvait embaucher n'importe qui.
Voilà, donc c'était le journaliste Serge Faubert qui était interrogé sur la chaîne France Info. Vous avez entendu que statistiquement, un contrôle tous les 1500 ans. 5 contrôles par an pour 7500 établissements. Vous êtes donc complètement la bride sur le coup, Michel Valadier.
Oui, non, mais alors il y a des choses vraies dans ce que dit ce journaliste. Par contre, quand il dit que on ne contrôle pas l'honorabilité des professeurs, je vais vous dire, il y a 25 ans que les professeurs doivent fournir un casier judiciaire, un extrait de casier judiciaire, pardon, avant d'être embauchés, vierge. Oui. Et avant d'être embauché, donc ceci est complètement faux. Je pense également que une inspection ne permet pas de s'assurer qu'il n'y a pas de drame dans une école. C'est la façon dont les inspecteurs exercent leurs inspections ne le permet pas. Elle permet par contre d'aller vérifier les éditions, les manuels, d'aller voir dans la bibliothèque si certains auteurs considérés comme contraires à la doxa sont utilisés, les affiches, les décorations que mettent les élèves dans leur classe. Ils s'intéressent énormément aux autocollants que déposent les élèves dans leur cahier de texte, aux dessins qu'il dessine, ce qui n'a rien à voir avec
c'est de l'inquisition avec, ça
mais c'est bien sûr puisque
alors justement on va appeler un chef d'établissement scolaire privé. Elle a vécu une inspection de l'Éducation nationale et elle va nous raconter comment ça se passe. Alors je lui ai juste une petite précision, elle souhaitait cacher son identité, hein, cette chef d'établissement, et on comprend pourquoi. Mais elle a accepté de témoigner, bravo à elle. On va donner donc simplement son prénom, elle s'appelle Alix. Bonjour Alix.
Bonjour monsieur.
Vous dirigez une petite école sous contrat. Hein, 50...
Hors contrat.
Hors contrat, pardon, décidément. Donc une petite école hors contrat, heureusement que Michel Valadier est là, de 50 élèves, et vous avez subi une inspection de l'Éducation nationale. Et je voulais vous demander tout simplement comment est-ce que ça s'était passé, combien est-ce que les inspecteurs étaient nombreux, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez entendu lors de cette inspection, et puis vous nous direz après ça les suites de cette inspection.
Oui, bien sûr. Alors, un peu pour poser le cadre, nous sommes une école hors contrat catholique qui existe depuis 6 ans à présent. Et nous avons été inspectés 5 fois. 4 fois au niveau académique et 1 fois une commission sécurité et hygiène. Il s'avère qu'ils sont donc toujours venus à 2 pour les inspections académiques. Et les trois premières fois, enfin les deux premières fois directement, aucun manquement n'avait été constaté, rien à signaler dans le rapport. Voilà, tout s'est plutôt bien passé.
Ouais.
Et je tiens à tenir que dans la forme de l'inspection, ça se passe en soi plutôt bien. Ils sont corrects, je n'irai pas jusqu'à courtois, mais voilà, corrects et rien en tout cas d'abusif à ce niveau-là et lors de l'inspection. Ça dure environ 2 heures pour cette cinquantaine d'élèves. Et puis, donc, les deux premières fois, elles ne sont pas venues écouter les élèves en classe. Ça s'est passé dans le bureau pour vérifier les aspects administratifs, la sécurité, et puis après, inspecter effectivement des cahiers et des manuels. Voilà, pour la pédagogie. Il s'avère que ce même inspecteur, et c'est ça qui est assez flagrant que je voudrais souligner, ce même inspecteur est donc revenu une troisième fois l'année dernière.
Ouais, ça fait quand même beaucoup même d'inspections, hein. Donc les deux premières se passent bien et il revient une troisième fois. Ouais.
On est passé de tous les 1500 ans à une fois par an.
Oui, c'est ça.
Ouais. Ça fait normal. Donc cette troisième fois, donc, là, je souligne bien que c'est le même inspecteur, et tout à coup, qui se déroule toujours normalement en soi, j'en ressors plutôt satisfaite, si je puis dire. Enfin, rien d'alarmant, en tout cas, n'a été prononcé. Et là, pas de rapport reçu, mais un mois après, cette personne débarque, commission sécurité et d'hygiène.
Sept personnes, comme les...
Sept autres personnes.
Sept autres personnes, c'est ça. Le chiffre 7.
Tout à fait, la préfecture et les pompiers.
Ah oui.
Ils indiquent, dès la première minute, qu'ils ont été missionnés à la suite du passage de l'inspection académique. Donc, ils avaient reçu le rapport d'inspection académique et demandé donc au préfet de déclencher une commission d'urgence sécurité et hygiène. Donc, il faut quand même préciser que ce type de commission n'est pas déclenchée pour rien. Elle est quand même réservée à des situations plutôt graves, alarmantes. Donc, assez étonnée, bon, je les reçois. Ils inspectent tous les registres de sécurité, exercice incendie, etc. Et la conclusion arrive sans ambiguïté. L'établissement est complètement conforme, voilà, à part une multiprise qui traînait et un local à vider un petit peu. Voilà, c'est tout ce qu'on nous souligne. Mais l'avis favorable arrive dans l'heure d'après, d'ailleurs. Et c'est là où il y a un premier problème quand même majeur, c'est qu'il y a quand même une commission compétente en matière de sécurité qui est déclenchée en urgence et qui constate que tout est conforme, alors que dans le rapport académique que nous avons reçu donc, 2 semaines après, il est quand même écrit, je cite, des carences sérieuses en termes de sécurité. Donc, bon,
Faudrait savoir. Hein,
c'est quand même quelque chose qui ne correspond pas. Bon, ouais. Voilà. Finalement, cette commission nous a été plutôt favorable, finalement, donc tant mieux. Et ensuite, ils abordent les aspects administratifs et pédagogiques. Administratifs, je tiens quand même aussi à le souligner, nous avons été mis en demeure avec une mise en demeure de 4 mois. L'administratif, il a été écrit que mes dossiers du personnel n'étaient pas sous plastique et qu'il fallait donc sortir les contrats des enseignants et que c'était pas lisible et facile à consulter. Donc, il y avait vraiment écrit qu'il fallait... Voilà, pour vous montrer le niveau.
C'est incroyable.
Voilà, vous montrez le niveau. Ça, c'est quand même pas complexe à répondre, soit. Et ensuite, sur le côté pédagogique, eh bien, je ne suis pas étonnée parce que j'entends quand même parler des autres inspections d'autres directeurs. C'est un peu toujours sur les mêmes sujets, l'histoire, la géographie, l'éducation civique et morale, et puis le numérique. Voilà. Donc, il s'avère que nous répondons à cette mise en demeure, point par point. D'ailleurs, je le souligne par les...
C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on vous reproche précisément sur l'éducation civique et morale, l'histoire, la géographie, les matières que vous avez citées ?
Alors, sur les manuels, on nous reproche que les manuels sont obsolètes, alors que je précise que c'est des éditions plutôt récentes. La dernière date de 2018 et ça va jusqu'à 2022. Donc, en tout cas, à jour. En revanche, effectivement, ils n'aiment pas la présentation qu'ils trouvent trop descriptive, etc. Ça, c'est pour nos manuels à la fois de sciences et de géographie.
C'est quand même
Non, mais voilà.
Je sais pas, ça donne une drôle d'idée de la liberté scolaire, oui.
Ben voilà, en fait, ça, complètement, la liberté de nos écoles hors contrat, quand même. On a cette chance-là, ce privilège-là. Donc là, c'est mettre en demeure sur ces points-là, en plus, qu'il vraiment la plupart étaient mensongers. Et on s'est permis de répondre point par point, suite d'ailleurs au conseil de la Fondation pour l'école qui nous aide énormément sur tout ça, et je leur remercie encore. Vraiment, on est très bien aiguillés. Mais donc, on répond sans problème à tous ces points. qui finalement était assez simple en réponse, hein, mais vraiment étonnant.
Oui, Alix, je voudrais vous poser une question.
Michel
bonjour.
Valadier.
Je crois avoir lu dans le projet de réponse que vous avez prévu, que vous avez préparé, qu'on vous a également reproché de ne pas suivre les programmes.
Oui.
Or, oui. Je voudrais porter à lire aux auditeurs un petit extrait justement du code de l'éducation qui prévoit que les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés par l'État par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui défini par l'article, etc. etc. Donc, très clairement, je vais vous laisser terminer votre témoignage, Alix, mais ces inspections sont des intimidations.
Et, ça ressemble à ça.
Et,
hein.
Ils utilisent tous les moyens, y compris la mise en demeure, sous 2 mois, sous 3 mois, vous devez vous conformer, vos cours sont trop descendants, vos salles de classe mais ressemblent à ce qu'on faisait dans les années 60, il n'y a pas d'îlot, par exemple, j'ai lu ça une fois dans un rapport, il n'y a pas d'îlot.
Qui veut la peau de l'enseignement hors contrat? Parce que la vraie question, c'est celle-ci.
Eh bien, ceux qui ne comprennent pas pourquoi il y a des écoles hors contrat. Et donc, quand vous avez de la fièvre, vous cassez le thermomètre qui vous donne la température.
Oui, on peut répondre plus rapidement à Elisabeth Borne, hein, qui a diligenté.
Absolument.
Mais Alix, vous avez peut-être autre chose à dire dans votre témoignage.
Alix, qu'est-ce qui vous a frappé peut-être le plus choqué et froissé peut-être dans tout ça?
En fait, ce qui me choque le plus, c'est qu'effectivement, c'est se dire, bon, tout va bien, et d'un coup, ça sort, nous avons des mises en demeure, et là, ils sont revenus très très récemment, bon, malgré notre réponse, hein, et en fait, ils en rajoutent toujours, c'est-à-dire qu'ils déplacent complètement le terrain des reproches, c'est-à-dire qu'on a répondu à chacun de leurs points, et ils vont toujours trouver autre chose. Là, c'était sur les manuels à changer, alors qu'effectivement, je rappelle que c'est notre liberté. Et ensuite, ils vont nous dire qu'on a des cours trop descendants, qu'il faut prouver dans
descendants,
les cahiers.
Descendants, c'est-à-dire
Des cours magistraux, les enfants n'ont pas de liberté d'expression. Ça a été quand même écrit dans notre rapport, alors qu'ils ne sont pas venus écouter en classe. Et je leur ai répondu, mais vous n'êtes pas venus écouter en classe, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Ni parler à des enfants. Je veux dire, c'est quand même la base pour pouvoir dire ce genre de choses. Donc, effectivement, quand ils sont revenus récemment, là, ils m'ont bien signalé, bon, bah, maintenant qu'il nous reste du temps et que vous nous l'avez signalé, on va aller écouter en classe.
Il y a une chose que vous avez dit, Alix, qui est intéressante, c'est que le même inspecteur a changé d'attitude.
Sur ordre,
oui. Et
donc, il y a des consignes, quoi, c'est ça que
sur
ça veut dire.
Ordre, bien sûr.
Ça laisse penser qu'en tout cas, oui, effectivement.
Ouais. En fait, qui dirige le ministère de l'Éducation nationale, rue de Grenelle? Qui est le vrai patron?
Ah, eh bien, la co-gestion depuis bien longtemps, oui.
Oui. Ouais. C'est pas le ministre. Les ministres passent.
De nombreux en 2 ans.
Si vous permettez, juste une anecdote à propos d'un ministre de l'Éducation nationale.
Non, qu'on libère Alix et puis, puis ensuite. Oui. Vous ça aurait pu. Philippe Charlès.
Oui, est-ce que derrière ce.
Une question pour vous.
Derrière ces inspections, est-ce que vous sentez de la part des inspecteurs un côté lutte des classes ou pas?
Honnêtement, oui.
Merci.
Je pense qu'aussi notre caractère catholique fait qu'on est clairement ciblé et qu'il faut toujours chercher quelque chose à reprocher au lieu que ça soit. Alors qu'une inspection, je pense que c'est normal et il en faut pour assurer un cadre, une qualité, une sécurité pour l'école. Mais quand ça devient abusif et qu'on a vraiment l'impression qu'il y a un parti pris, ça génère du stress pour tout le monde, pour les enseignants aussi qui se remettent en question, les élèves. Là, ils reviennent dans 2 mois. Et en fait, ils vont encore déplacer le sujet. Pour trouver autre chose, en fait. Donc, c'est infernal.
C'est pas dans 1500 ans.
C'est un peu kafkaïen, et ça fait penser, moi, je pense à Solzhenitsyn, en vous écoutant, c'est quelque chose d'un peu soviétique, quand même. Hein. Et, non ?
Oui, parfaitement. On peut résumer la situation, et ils viennent chercher des raisons de fermer l'école.
Absolument.
Et dans le cas des écoles sous contrat,
c'est ce qu'on entend.
Et dans le cas des écoles sous contrat, ils viennent chercher les raisons de supprimer le contrat. J'ai appris une chose, comme ça, Alix, vous serez informé. Hier, une école sous contrat catholique non mixte a été inspectée, hier. Et on leur a reproché la non-mixité. Et les inspecteurs qui sont venus à 7 établissements de 100 élèves ont dit si vous étiez hors contrat, vous pourriez les classes non mixtes, c'est pas de problème. Mais vous êtes sous contrat, vous devez accepter qu'il y ait des jeunes gens et des jeunes filles. Et ce chef d'établissement qui est un vieux routier a répondu, il a dit, mais je connais des établissements publics qui sont non mixtes. Vous avez entendu parler de la Légion d'honneur, monsieur l'inspecteur? Les deux écoles, la Légion d'honneur, les jeunes filles, en plus elles sont en uniforme et en plus elles sont en jupe. Et il dit, oui, moi je ne suis pas chargé d'inspecter les écoles de la région parisienne, je suis chargé d'inspecter les écoles de ma région. Mmh. Et donc ils vont aller au contentieux et nous allons, avec la Fondation pour l'école, les soutenir. Nous soutenons toutes les écoles qui se battent et nous gagnons tous ces contentieux.
Mmh. Y compris les écoles Averroès, les musulmans, les écoles, y compris
alors,
celle-ci.
Les écoles Averroès, c'est une école sous contrat qui a perdu son contrat. Là, c'est une école un peu particulière parce qu'ils ont des classes hors contrat et que la question de la mixité est un sujet auquel nous sommes sensibles parce que, de fait, il existe beaucoup d'écoles... il existe peu d'écoles mixtes, non mixtes, dans sous contrat. Sachant assez paradoxalement, officiellement, les écoles musulmanes sont mixtes.
Alors, on va libérer...
Sur le papier, officiellement.
On va libérer Alix. Merci infiniment pour ce témoignage extrêmement intéressant, parce que on voit bien, très bien, grâce à vous, sur le terrain, comment ça se passe, et puis cette espèce d'insistance et de perquisition autoritaire et d'acharnement sur une école de 50 élèves. Vous nous avez dit, ils étaient combien? 7, c'est ça?
Non, 2. Ils sont à l'inspecteur, ils sont venus à 7. À la commission de sécurité, ils étaient 7.
Ils sont toujours venus à 2,
oui. Tenez-nous au courant, Alix.
Oui, tenez-nous au courant de la suite.
Va suivre le dossier.
Ça nous intéresse beaucoup.
Très bien.
Merci infiniment de nous avoir consacré un petit peu de temps. On continue notre discussion, on va parler des écoles privées.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Voilà, nous sommes avec Michel Valadier, qui est le directeur général de la Fondation pour l'école. Et vous n'êtes pas le seul, à vous élever contre ces contrôles à la chinoise. Il y a en même temps un coup de gueule du secrétaire général de l'enseignement catholique, qui s'appelle Guillaume Prévost, et qui dénonce des méthodes de contrôle abusives, arbitraires, anxiogènes, des injonctions qui visent à neutraliser toute expression de l'identité catholique, une suspicion généralisée, c'est exactement ce qu'on vient d'entendre. Et donc c'était dans un article du Figaro en tout début de semaine, mardi je crois. Et la rue de Grenelle, simplement, a regretté elle-même des comportements inacceptables, je cite entre guillemets, et annoncer des recadrages de ses propres inspecteurs. C'est incroyable. Donc, comment est-ce que vous avez vu, évidemment, ce coup de gueule de Guillaume Prévost?
Bien sûr.
Vous êtes complètement aligné, ça correspond exactement à ce que vous venez de nous dire, non?
Et ce n'est pas le premier, d'ailleurs, puisque le même Guillaume Prévost a protesté devant la commission des affaires culturelles et éducatives de l'Assemblée nationale le 3 décembre dernier, en demandant à ce qu'une enquête soit diligentée. Et depuis, ils ont produit un document de 20 pages recueillant les verbatims des différentes inspections.
Un document en défense, donc.
Un document montrant simplement témoignage des questions posées aux professeurs, des questions posées aux élèves, etc. Et donc, sachant que ce genre de document, nous en avons envoyé plusieurs au ministère avant que Mme Borne décide d'inspecter les écoles sous contrat. Donc nous sommes très heureux d'une certaine manière de ce renfort et de cette convergence. Je voudrais quand même donner un chiffre aux auditeurs qui sont peut-être un peu perdus. Il y a 58 000 écoles en France, 48 000 écoles publiques, 10 000 écoles privées. Dans ces 10 000 écoles privées, vous avez 7 500 écoles privées sous contrat. Parmi ces 7500, 7200 sont catholiques. Voilà. Et il y a 2500 écoles privées hors contrat.
Voilà, que vous représentez.
Et donc voilà, en gros, si vous voulez, pour le paysage des établissements. Et les inspections existent dans les écoles hors contrat depuis une quinzaine d'années. Et elles sont tout à fait nouvelles, comme l'a dit le journaliste interrogé sur France Info, elles sont assez nouvelles aussi systématiquement. Mais ce n'est pas terminé, puisque le ministre Geffray a annoncé 1300 inspections en 2026. Donc il y en a eu 850.
Ils vont encore augmenter la cadence.
Bien évidemment, puisque l'idée est que l'ensemble de ces 7500 établissements soient visités, et la majorité sont catholiques, puisqu'il y a 7200 sur 7500. Et ce sont les mêmes inspecteurs qui... se sont en quelque sorte fait la main sur les écoles hors contrat, qui débarquent dans les écoles sous contrat. Et donc, leur comportement qui consiste à fouiller dans les cartables des élèves, nous le connaissons, nous le dénonçons depuis longtemps. Il faut savoir qu'un chef d'établissement n'a pas le droit de fouiller dans le cartable d'un élève.
C'est des inspecteurs ou des commissaires du peuple ?
Eh bien, c'est un peu cela.
C'est un peu cela, et j'ai eu
l'occasion de témoigner ici à une autre émission. Lors de la première inspection que j'ai subie, c'était en 2017, ils sont venus à 7 inspecteurs, et je refusais de répondre à une question qui concernait la vie extra-école des professeurs, et le chef des inspecteurs s'est tourné vers moi en disant « Mais monsieur, nous ne sommes pas à la Stasi tout de même ».
Non,
un long silence a suivi, puisque je n'ai pas voulu répondre, pensant à mon école. Et donc je n'ai pas communiqué cette information. J'ai reçu un courrier en disant « Nous exigeons que », je n'ai pas communiqué l'information, et il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Les questions portant sur la pratique religieuse des professeurs, sur...
Mais c'est de l'ordre privé, ça.
Bien évidemment.
C'est dans la Constitution, c'est dans la loi. Donc.
Il y a une question importante. Dans le vademécum des inspecteurs, il est dit, vous devez rencontrer les élèves. Donc, certains inspecteurs en ont déduit qu'il fallait voir les élèves seuls, sans la présence d'un adulte. Alors, ça, nous dénonçons ce scandale depuis 3 ans. Et ça se calme un petit peu, puis ensuite ça reprend. Mais là, il y a eu des dizaines de cas dans les écoles sous contrat, et Guillaume Prévost a protesté contre cela, ce qui a amené le ministre Geffrey à répondre dans le même Figaro, un extrait dans le même Figaro du 3 février, qu'il est préférable, je cite, de recueillir l'accord des représentants légaux avant d'interroger les élèves.
Donc des parents.
Mais préférable. Et donc, à l'époque, nous avons fait poser une question au ministre, je ne sais plus lequel c'était, il y a 2 ans, vous regarderez, peut-être pas Pendai, peut-être Attal, peut-être, enfin on ne sait plus, après c'est compliqué. Et le ministre avait répondu que ce n'était pas recommandé par le ministère, mais ça n'a absolument pas été interdit. Je sais que des formations sont en cours. Il faut former tous ces inspecteurs là.
C'est quoi un inspecteur ? Il sort d'où lui, l'inspecteur ?
Ancien enseignant.
Ce sont des anciens professeurs la plupart jusqu'ici, sauf que depuis 2021, la loi sur les principes de la République, dite loi séparatisme, les inspections se sont élargies à d'autres champs que l'éducation et que la pédagogie, se sont élargies aux questions financières, aux questions de sécurité. Et donc aujourd'hui, dans le corps des inspections, il y a des inspecteurs qui ne sont pas professeurs. Alors qui ne se préoccupent pas de pédagogie théoriquement, mais qui vont regarder les locaux, visiter, voir les clôtures, etc. etc.
Mais ça, il y a les pompiers qui sont faits pour ça.
Bien sûr. Donc ça fait doublon.
À Philippe Charlès d'abord, et à Damien Chalamel après.
Moi, ma question, c'était, vous avez dit 7500
écoles sous contrat,
établissements
privés
sous contrat
et 2500 privés hors contrat.
Et 7200, vous avez dit, d'obédience catholique, et donc 300 neutres.
Qui sont écoles laïques, écoles protestantes, écoles juives, écoles musulmanes, il n'en reste plus que 3.
Est-ce que les autres ont autant... Est-ce que c'est vraiment ciblé sur les catholiques ou au contraire c'est vraiment ciblé privé ?
Toutes les écoles. Privées.
Toutes les écoles privées, donc ok.
Mais on parle surtout des catholiques, vu la proportion.
Vu la proportion, c'est sûr que c'est représentatif. Non, c'est parce que moi j'ai l'impression que là-dedans, on en oublie l'essentiel, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Or, vous êtes manifestement représentatif d'écoles privées qui sont beaucoup plus successful. Alors là, je mettrai un... J'ai pas trouvé le mot français. Que l'enseignement public. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas derrière ça une certaine jalousie ?
Évidemment. Et c'est-à-dire que nos écoles sont un reproche vivant d'un système, des carences du système.
Donc on revient à de l'entrisme gauchiste, je suis désolé.
C'est évident. Une chose m'a frappé, j'ai subi 2 inspections en tant que directeur, c'est qu'à aucun moment... On nous a interrogé sur les résultats et sur les débouchés de nos élèves. L'inspecteur en chef, le fameux qui parlait de la Stasi, en passant d'un bâtiment à l'autre, il dit « J'imagine que vos résultats au bac sont bons. » Je lui dis « Oui, si vous voulez, on a les statistiques. » Non, c'est bon. En fait, on n'est pas venu pour ça. C'était un homme que je pense que nous avons réussi à ébranler parce qu'en sortant, il m'a dit des mots, il a tenu des propos sur le trottoir en disant « Ah, mais quand même hein. !» Ah, quand même, tant qu'il était...
Il était quand même impressionné, je pense.
Et ça, après nous avoir lessivé pendant 5 heures, mais...
La question que je me posais sur la formation de ces inspecteurs, peuvent-ils venir du privé ou viennent-ils systématiquement du public ?
Ils viennent systématiquement du public parce que ce sont des sachants. Et d'ailleurs, ils ne comprennent pas que des professeurs agrégés voire normaliens, enseignent dans nos écoles. Et ils sont très curieux de savoir, alors ils le savent maintenant grâce à l'informatique, très curieux de savoir d'où viennent ces professeurs et comment il est possible que des professeurs formés par l'éducation nationale donnent du temps, voire se mettent en disponibilité, voire démissionnent pour rejoindre des écoles privées.
Ils sont mieux payés
leur contrat.
Ou pas ?
Ah non. Beaucoup moins.
Ah non, bien ils sont payés,
beaucoup, beaucoup moins bien payés chez nous, bien sûr.
Ah, moins bien payés bien dans sûr. Le privé que dans
mais
le
oui,
public.
Le,
ça dépend peut-être des écoles.
Alors, vous avez une minorité de 5% d'écoles qui ont un statut commercial et qui ont des scolarités à 15 000 euros, etc. Mais là, je ne parle pas de ces écoles-là. Enfin, en tout cas, nous, à la Fondation pour l'école, nous aidons les écoles de pauvres qui s'appauvrissent, même s'ils ont des revenus confortables, qui s'appauvrissent en payant les scolarités, en achetant une grosse voiture quand ils ont une famille nombreuse et qui ne partent pas aux vacances au sport d'hiver parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Donc, non, c'est les pour revenir à votre question, cher maître, les inspecteurs viennent tous du public.
Et je crois savoir, pour rebondir sur ce que disait Philippe, que les jeunes professeurs agrégés, ça n'était pas le cas auparavant, ne peuvent plus rejoindre les établissements privés sous contrat en bénéficiant des gratifications attachées à leur statut d'agrégé financière. Alors qu'auparavant, vous pouviez, en tant qu'agrégé, en l'occurrence votre CAFEP, parce qu'il y a l'équivalent du CAPES pour le privé, vous pouviez aller dans le privé, enseigner dans le privé et être rémunéré comme agrégé.
Quelles sont leurs motivations principales alors
Pour venir dans les écoles privées, dans les écoles privées hors contrat, et bien c'est
hors
de trouver
contrat ou même parce que sous contrat ils sont aussi
alors,
bien payés.
Sous contrat ils sont agents publics de l'État, la rémunération est à peu près la
d'accord.
Même.
Donc c'était
je parlais des écoles hors contrat.
Alors, hors contrat.
Leur motivation, c'est tout simplement de retrouver un cadre où ils sont soutenus en cas de difficulté sur le plan disciplinaire. C'est de retrouver une école où le sens du travail a été préservé, où quand vous avez 55 minutes de cours, vous faites cours 54 minutes, c'est la paix, c'est la cohérence, des disciplines entre elles, les professeurs se serrent les coudes, etc., etc. Donc nous avons beaucoup de professeurs qui demandent de bénéficier d'une disponibilité dans leur école publique ou privée sous contrat pour venir enseigner dans nos établissements. Et ça, c'est un problème parce qu'il y a encore 10 ans, on l'obtenait assez facilement. Mais à cause de la baisse des vocations à cause des démissions, l'augmentation des démissions qui est effrayante dans l'enseignement public. Aujourd'hui, les directeurs disent non, je ne peux plus te lâcher. Donc il y a des professeurs, des directeurs qui ne seraient pas forcément contre cela, qui disent non, j'ai un temps plein, j'ai besoin de toi à temps plein parce que je n'ai personne pour te remplacer. En physique, chimie, en SVT, en philo, vous avez des trous dans l'emploi du temps, des difficultés à recruter ce genre de professeurs.
Alors, Jean-François Clondesart, il fait le martyr. Là,
je ne dis plus rien. Terminé. Non. Quand chez vous, quand le professeur rentre dans la classe et puis les élèves se lèvent,
oui, financement.
Très bien.
Non seulement les élèves se lèvent quand le professeur rentre dans la classe, mais les élèves se lèvent dès qu'un adulte rentre dans la classe, même la secrétaire.
Très bien.
Extraordinaire, hein, voilà.
Et l'uniforme est imposé.
Voilà, bon conseil pour les écoles de bon.
Alors,
dernière question, si vous permettez, cher Marc.
Tout est permis pour Jean-François Clondesart.
L'école est faite pour enseigner. Elle n'est pas faite pour éduquer. Or, ça a glissé. Puisque l'éducation, il y a des grands manques. On n'a pas laissé de dire ça, mais de plus en plus. Vous en parliez tout à l'heure, ce pauvre gosse.
C'est surtout la pauvre prof.
Oui, de la pauvre prof. Non, mais je veux dire, c'est les parents qui sont coupables. Mmh. C'est les parents. Je veux dire, les parents doivent éduquer leurs enfants à l'école, on enseigne. Mmh.
Je voudrais préciser, bien évidemment, sauf que le système,
parce que
depuis 1968, système fait que les parents ont été mis à la porte, à la grille de l'école, en disant « laissez-nous faire notre travail ». Et donc, pour qu'un élève grandisse, il faut qu'il se sente encadré, si je puis dire, et qu'il y ait une cohérence entre les parents et l'école. Aujourd'hui, le simple terme « éducation nationale », le ministère de l'Éducation nationale, induit une mauvaise direction. Mmh. Et du coup, fait penser à un certain nombre de parents qui ont peut-être envie de faire carrière, etc., que l'école s'occupe de tout. Et donc, je mets mon gamin, il se débrouille, et ensuite, quand il rentre à la maison, ben, on fait ce qu'on peut. Et beaucoup de professeurs s'insurgent contre le fait que les parents ont démissionné, mais l'école est en partie responsable du mauvais positionnement des parents. Quand Mme Borne, éphémère ministre de l'Éducation nationale, dit « à la rentrée, nous avons trouvé une idée géniale, on va demander au directeur d'organiser une réunion de rencontre avec les parents par an », mais attendez, on rêve des réunions de parents, dans les bonnes écoles, il y en a 3 par an. Il y a des rencontres en permanence. Ça existait dans le public. Moi, j'ai fait ma scolarité dans le public. Je me souviens très bien que 2 fois par an, mes parents rencontraient les professeurs qu'ils voulaient et ils venaient. Et on faisait en sorte que, aujourd'hui, la plupart des écoles privées sous contrat et hors contrat proposent tout au long de l'année des conférences aux parents.
C'est vrai, je peux en témoigner.
Des conférences sur l'hygiène de vie, des conférences sur les smartphones, des conférences pour les responsabiliser. On dit que les parents sont les premiers éducateurs, mais les sociologues confondent la chronologie. Ils sont les premiers forcément par la chronologie, mais ce sont les premiers éducateurs parce que les principaux éducateurs. Il ne suffit pas de le dire, ça. Il faut que l'école se repositionne. Dès qu'il y a un problème, les parents doivent être convoqués, doivent être vus, doivent être impliqués, etc.
On a l'impression qu'ils sont plutôt tenus à distance.
Exactement.
Alors, je voudrais qu'on parle du financement, parce que c'est quand même un gros chapitre. Je rappelle que nous sommes avec Michel Valadier, qui est le directeur général de la Fondation pour l'école. Le coût de l'enseignement privé, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est quand même important. 8 milliards d'euros en 2022, c'est le dernier chiffre que j'ai trouvé, ça n'a pas dû beaucoup bouger. Alors, il y a évidemment des énorme pression de la gauche pour stopper le financement de l'État aux établissements privés qui soient plutôt sous contrat.
Oui, sous contrat. Les écoles hors contrat ne coûtent rien à l'État.
Ne sont pas concernés. Et je voudrais qu'on écoute Pierre Ouzoulias. C'est un sénateur communiste des Hauts-de-Seine, vice-président du Sénat, membre de la Commission Culture. Il est conseiller départemental, historien, archéologue, voilà. Et le 10 octobre 2024, voilà ce qu'il disait au Sénat, vous voyez, il dénonçait un séparatisme scolaire.
Ainsi, le directeur diocésien de l'enseignement catholique de Paris déclare-t-il, je le cite, « Plus on dira que l'école privée est une école de l'entre-soi, de gens privilégiés, plus elle attirera. On ne peut se réjouir de cela, mais c'est ainsi. Madame la ministre, comment pouvez-vous accepter que l'argent de l'État, dont les établissements publics ont tant besoin, puisse continuer de financer un séparatisme scolaire qui menace le contrat social de notre République ? Merci.
Voilà, donc le séparatisme scolaire menace-t-il le contrat social, Michel Valadier ? Alors je rappelle juste un chiffre, hein, l'enseignement public, que rappelle tout le temps qu'il faut rappeler, hein, c'est que l'enseignement public coûte plus cher, mais vous allez nous le dire, par élève que l'enseignement privé.
Bien sûr. Alors les chiffres, évidemment, sont sujets à discussion. Contribuables associés a calculé qu'un élève dans le public, de la maternelle à la terminale, coûte 12 000 euros par an. La réalité, sans doute, plus près des 10 000 euros. Un élève dans l'enseignement privé coûte 8 000 euros par an. Et c'est 8 000 euros, un peu moins cher. Sur ces 8 000 euros, il y a en gros 6 500 euros de contribution de l'État et des collectivités et 1 500 euros contribution des parents, des familles. Un élève dans le privé hors contrat nécessite 4 000 euros par an. Sachant que alors je vous ai parlé des scolarités à 2000 tout à l'heure, comment la différence est-elle financée ? Elle est financée par des dons. Le modèle économique d'une école hors contrat, c'est en gros...
Non, mais ce que vous reproche la gauche, hein,
oui, c'est
en l'occurrence, c'est de dire, voilà, vous captez les bons élèves, vous prenez l'argent de l'État, et résultat, nous autres, nous récupérons les mauvais élèves, et nous avons les poches vides.
Ben, c'est un très mauvais calcul, parce que si tous les élèves, les 2 millions d'élèves scolarisés dans les écoles privées hors contrat et sous contrat devaient être scolarisés dans le public, il faudrait débourser 30% de plus. Que même plus le double, 6 500 euros pour 12 000. Parce que je vous rappelle que dans des écoles privées sous contrat, il faut 8 000 euros pour faire tourner un établissement. Et 6 500 sont fournis effectivement par les collectivités locales ou l'État. Les 1 500 le reste par les parents. Donc si l'État devait s'occuper de ces 2 millions d'élèves, il leur coûterait 2 millions multiplié par 6 000.
Avec des résultats bien moindres.
Et avec des résultats beaucoup moins intéressants, évidemment.
Ouais.
Et donc le problème, la limite du hors-contrat et la difficulté du hors-contrat, c'est qu'une école hors-contrat a besoin, en gros, de trouver chaque année 20 à 30% de recettes complémentaires pour boucler son budget. Et donc, la générosité du public est sollicitée. Et comme...
Déductible des impôts.
Déductible des impôts. Et du coup, c'est la raison pour laquelle les socialistes viennent de créer une commission d'enquête au Sénat sur le financement des fondations et autres instituts qui aident les écoles privées et qui détournent la générosité du public en direction de parce qu'ils veulent, ils veulent attaquer au porte-monnaie, soyons clairs.
Incroyable. C'est ce qu'avait fait Mitterrand, la fameuse bataille pour le privé. Ça avait, il y avait 2 millions de Français dans les rues, la fameuse manif où le ministre de l'époque avait reculé.
1 million 2,
c'est déjà pas mal, le pouvoir avait reculé. On va arriver à ça peut-être une nouvelle fois, 40 ans après, en gros. Ouais.
En tout cas, il y a un relais, donc ce que vous nous dites, ce que j'ignorais, c'est qu'il y a un relais au Sénat pour...
La commission se met en place ces jours-ci.
Enfin, les socialistes au Sénat ne sont pas majoritaires. Hein.
Non.
On donne là. Hein.
Et heureusement, un certain nombre de sénateurs qui sont très attachés au libre choix, au libre choix de l'école, ne...
Le principe fraternel qui transcende
certes
les oppositions.
Certes.
Voilà.
Enfin, vous montrez bien qu'on est en plein combat idéologique, en fait. Hein. Ce que je veux dire, c'est que il faut un modèle public, quels que soient finalement les mauvais résultats, ça n'est pas très grave. Parce que finalement, le grand but de la gauche... Mmh. C'est pas de transformer les enfants en adultes, c'est surtout que les enfants restent des enfants et soient manipulables à vie. Donc c'est-à-dire que former des adultes autonomes n'a jamais été le but avoué de la gauche, au contraire.
En tout cas, le but avoué, Vincent Peillon a été le ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande, donc en 2012, grand admirateur du projet pédagogique de Robespierre, qui a écrit un livre qui s'intitule « La révolution n'est pas terminée ». Et dans ce livre, il dit « Il faut terminer la révolution, il faut provoquer ce qu'il a appelé une transsubstantiation », prenant un terme qui vient de la théologie catholique, pour les auditeurs qui ne seraient pas habitués, qui expriment que le pain et le vin à la messe, au moment des paroles de la consécration « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », est transformé en corps, sang et âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de transsubstantiation, il n'est pas de confession catholique. Et dans ce livre, il dit « Il faut arracher les enfants à tous les déterminismes sociaux, religieux, familiaux ». C'est le projet de Le Pelletier de Saint-Fargeau, camarade de lutte de Robespierre, qui a fait voter une loi à la Convention en 1793, qui prévoyait que tous les garçons et les jeunes filles soient pris en charge par l'État dans une éducation nationale. C'est la première fois que le terme est écrit dans un texte.
Et non Philippe pas Nemo instruction publique.
Éducation nationale, absolument. Et les garçons à l'âge de 5 ans, les jeunes filles à l'âge de 6 ans, jusqu'à 12 ans, pris en charge, mis ensemble, même nourriture, même instruction, même vêtements.
Ça s'appelle le communisme.
Ça s'appelle le marxisme.
Et bon,
ça s'appelle
la République française.
En 1794, le Robespierre est tombé et le Pelletier de Saint-Fargeau l'a accompagné en direction du rasoir national. Et donc l'affaire est tombée dans l'oubli. Mais pas pour tout le monde, puisque Vincent Peillon...
Ressortie de la tombe.
Oui, mais Vincent Peillon a oublié une chose, c'est que la France est la fille aînée de l'Église, d'une part, et deuxièmement, le catholicisme a forgé, a fondé ce pays, qu'on le veuille ou non. Il y a des siècles et des siècles, alors on peut discuter sur la façon dont ça s'est passé, etc., bien entendu, mais c'est intrinsèque, ça fait partie de l'ADN des Français, qu'on le veuille ou non.
Conclusion, oui, Jean-François Coulon des Arts, absolument. Nous sommes tous d'accord avec vous, on opine du bonnet, on admire cette envolée.
N'en faites pas trop quand même, Baudrier. Hein.
non, mais on est d'accord. Michel Valadier, un mot de conclusion. L'école privée est en danger, à votre avis, ou pas?
Honnêtement, je crois que non. Je pense que tout ce que vont réussir à faire les adversaires, c'est de réveiller les ardeurs guerrières et le courage d'un certain nombre d'acteurs qui, depuis 40 ou 50 ans, courbent les chines, baissent la tête et avalent les couleuvres en disant « au moins on sauve ce que l'on peut », etc. Et donc j'espère beaucoup de ces attaques. Au contraire, un renforcement de la détermination. Je dois dire que à ma connaissance, et si ce n'est pas le cas, les auditeurs pourront nous écrire à la Fondation pour l'école, aucune école hors contrat n'a été fermée pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire dès lors que ces écoles étaient sérieuses, qu'elles faisaient leur travail, qu'elles avaient un projet pédagogique clair, un projet qui est conforme à nos racines. qui est même s'il n'est pas confessionnel, qui est conforme à la longue tradition de la France française, à la grande tradition française, aucune de ces écoles n'a fermé. Il y a eu des fermetures d'écoles, mais parce que ces écoles n'étaient pas gérées de façon professionnelle. Donc la difficulté, mais c'est une chance, toutes ces inspections nous obligent à être impeccable, à être rigoureux, à faire les choses correctement, à veiller au bon recrutement, à s'armer pour pouvoir répondre aux exigences. Mmh. Et donc, il suffit de ne pas avoir peur, d'être courageux. Vous n'êtes pas seul. Il y a donc 10 000 écoles privées aujourd'hui qui sont dans le viseur. Donc, moi, je suis très content d'une certaine manière. Je déplore tout ce que les chefs d'établissement du privé sous contrat ont pu subir, des professeurs qui ont été traumatisés. Certains se sont mis en arrêt maladie en ne supportant pas la pression. Eh bien, j'espère qu'ils vont revenir guéris et plus forts que jamais.
Du bon usage, d'une certaine persécution scolaire. Merci Michel Valadier, c'est très positif et enthousiasmant. Merci, c'était absolument passionnant. On a appris plein de choses sur l'école et l'école privée hors contrat et sous contrat grâce à vous.
Merci pour votre invitation et je vous souhaite continuation.
Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, vous reviendrez nous voir, j'espère. Nous aurons tout à l'heure notre clin d'œil culture et puis nous allons parler tout de suite de l'audiovisuel public. Il est secoué par Charles Alloncle, le fameux député Charles Alloncle, mais l'audiovisuel public persiste et signe.